Et bien le bonsoir à tous, bienvenue sur le cast rétro. On accueille ce soir Conquerax et Mackenite TV. On va parler de la saga Dragon Ball dans le jeu vidéo. Comment ça va les gars? Est-ce que vous allez bien?
Bah écoute, ça va, non, ça va très très bien, je te remercie. On est très content de pouvoir aborder le cas de Dragon Ball dans le JV parce que c'est un cas qui est quand même très particulier. Certainement le manga animé le plus populaire de l'histoire, je pense.
Ouais, clairement.
Évidemment légendaire. Et donc il a connu son lot de jeux. Alors ouais, avec plus ou moins de succès, on va certainement le voir, mais voilà.
On va en
c'est
parler,
clair. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de choses. Donc on va en parler parce que c'est vrai que même en préparant l'émission, je me suis rendu compte, il y en a plein que je connaissais même pas, tu vois. Il y en a tellement qui sont sortis que c'est un truc de fou, quoi.
Ah, je pense que c'est l'animé, le manga qui a le plus de jeux en fait à son actif.
Ouais, de portage en jeu vidéo, ouais, clairement.
De l'histoire, hein, à mon sens.
On va commencer tranquillement. Je vais vous demander, bah déjà, est-ce que vous rappelez vous le premier jeu Dragon Ball que vous avez pu jouer, et est-ce que vous étiez déjà, on va dire, spectateur de l'animé?
Moi, j'étais, je suis d'une génération où j'ai connu dans mon enfance la genèse et l'engouement qu'il y avait pour le Club d'eau et bien sûr et ben toute la diffusion de Dragon Ball qu'il y a pu avoir à cette époque. Donc oui, j'étais en pleine hype de Dragon Ball à quitter l'école le plus vite possible le mercredi matin pour pas louper le Club d'eau à 13h30 avec Dorothée pour voir mon épisode des Chevaliers du Zodiac de Dragon Ball. Et puis bon, des fois il y avait Candy ou Juliette Je T'aime, bon, on regardait quand même.
Ouais, c'est sûr.
Et donc c'était dans cette période-là, et puis après est arrivé, enfin en tout cas sur le continent européen, et puis je pense que c'est ce qui était le plus populaire à ce moment-là, sur la Super Nintendo, avec bah, les premiers Butuden en fait, les Butuden qui ont été les premiers jeux de combat à l'époque, donc avant, sur les générations précédentes, la NES principalement, c'était des jeux principalement action-aventure, ouais. Et là on arrive avec un jeu de combat, joué comme à Street Fighter, mais avec nos personnages favoris de Dragon Ball, c'était exceptionnel, donc ouais. Moi j'ai ces souvenirs là le début de Dragon Ball en jeu vidéo, moi ça a été l'époque Super Nintendo.
Ouais, ok. Et pour toi Conquer, tu te rappelles un petit peu?
Alors moi c'est un peu un souvenir à la fois douloureux et émouvant, mais en gros moi bon, c'est vrai que j'ai connu vraiment la licence Dragon Ball sur console avec Final Bout, parce que bon, moi j'ai 32 ans, bientôt 33, et c'est vrai quand la PS1 sort, alors Final Bout il sort, franchement je me souviens plus tellement la date exacte, mais j'étais tout jeune et je devais avoir 8-9 ans, et forcément j'avais pas trop connu les épisodes, moi, Butoden sur Super Nintendo, tout ça, ouais. Même si c'est vrai que je lisais des magazines de l'époque qui en parlaient, qui montraient des images, et ça me faisait pas mal rêver. Et j'ai connu avec Final Bout surtout, alors bon, quand t'es jeune, que tu vois des persos en 3D comme ça, etc., tu dis waouh, c'est incroyable et tout, puis bon, tu te rends compte que finalement en grandissant, c'était pas si incroyable que ça, disons,
ouais,
c'est très, très très lent, très très, voilà, mais t'étais content parce que tu voyais les animations, tu voyais les caméas, bon, même s'ils disaient Kame, je sais pas pourquoi ils disaient ça, mais bon, c'était assez, assez particulier. Mais voilà, moi j'ai vraiment connu, je pense que c'est vraiment sur PS1 que j'ai commencé à connaître Dragon Ball en jeu vidéo. Alors après, ouais, moi je regardais bien sûr l'animé depuis un petit moment via plusieurs émissions. Oh, il y avait, je me rappelle plus, je sais plus, c'était Recre Kids, je sais plus les émissions qu'il y avait à l'époque, Micro, je sais plus exactement, depuis quoi, l'âge de 6-7 ans. Et puis mes parents m'achetaient les mangas papier, notamment. On allait dans les villes greniers aussi avec mes parents plus jeunes, et pareil. Et ça a été une grande histoire d'amour à partir de là. Mais par contre, le jeu en lui-même, je me souviens déjà jeune, j'aimais bien, mais il y avait des trucs qui me chiffonnaient. Tu vois, on pouvait pas se transformer en plein combat, par exemple. J'étais pas content, tu vois. Tu sais, moi, c'était un peu un de mes rêves. Et j'ai découvert qu'après, il y avait un jeu que je n'avais jamais réussi à avoir, mais que je voulais impérativement. C'était Dragon Ball Legends, qui est peut-être l'un des meilleurs jeux qui est sorti Dragon Ball sur PS1, aussi sur Saturn. Et Legends, c'était mon rêve absolu. Sauf qu'il y avait qu'une boutique qui le vendait à l'époque et assez cher déjà. Et c'est vrai qu'il n'était pas courant du tout déjà à la base.
C'était un import, non? C'était une exclu...
Ouais. Je crois qu'il était en import, justement, c'était Neo Hayato à Marseille, Neo Hayato, qui est assez connu.
Okay.
Et putain, je le cherchais comme un fou, mais je ne l'ai jamais eu, quoi.
Ouais. Ouais, après, ça fait partie des choses. Moi, c'est vrai que pareil, bah, je suis un petit peu plus vieux, donc j'ai eu 41 ans. Donc, c'est vrai que mais moi, j'ai grandi avec les Dragon Ball, donc les premiers Dragon Ball, ensuite Dragon Ball Z, et j'ai connu aussi le Dragon Ball sur NES. Moi, j'ai vraiment débuté avec ça. Alors, c'est pareil, c'était pas le meilleur Dragon Ball qu'il y a pu avoir, mais encore une fois, comme tu disais, quand t'as que ça et que bah, c'est le seul moyen de retrouver tes personnages dans un jeu vidéo, et ben t'es content quand même. T'es content quand même. Et donc voilà, ouais. Et après Dragon Ball Z, j'ai souvenir, moi, c'était plutôt sur Super Nintendo, mais c'était pas moi, parce que moi, j'ai pas eu de Super NES, mais avec la Légende Saiyan, qui était pareil, un super, quoi, pour moi en tout cas, qui était vraiment tout autre chose, quoi. Quand tu passes de Dragon Ball NES et que tu passes à TBZ de la Légende Saiyan sur SNES, il y avait un gap qui était énorme, et franchement, là, tu commençais à retrouver un petit peu ce que tu voulais attendre, en fait, d'un jeu Dragon Ball, quoi.
Vous voulez, donc, ouais, du fight et tout, et c'est vrai.
Exactement.
Que sur NES,
exactement.
Ça a été difficile.
Ce qui est particulier avec les jeux Super NES, qui étaient des jeux de combat, on connaissait Street Fighter et puis après Street Fighter 2, c'est sorti à la même époque. Hein. Ouais. Bunden, le premier, est sorti en 92, la suite, donc la Légende Saiyan en 93, et puis suivi par Ultime Menace en 94. Et après, il y a eu Hyperdimension qui était sur la fin de vie. Et là, on arrive sur un jeu qui, en fait, c'était pas ouf ces jeux, ils étaient lents, il y avait cette notion d'écran splitté, mais qui n'était pas très exploitable, mais on s'éclatait parce que c'était Dragon Ball, quoi. Ça,
non, ça faisait mais c'est
tout.
Clair.
Et il y avait, les Kamehameha, les Cannon Garlic, et ça, en fait, ça faisait tout. Ça faisait tout dans le jeu. C'était le truc à réussir. Il l'avait réussi. C'est bon, le jeu était un carton.
Ouais. C'est un peu notre, comment dire, notre insouciance de l'époque, de voir juste les personnages animés devant nous comme ça. Peu importe le jeu que c'était. Finalement, on était contents, tu vois. Moi, c'est vrai que c'est, j'ai eu Ultimate Battle 22 aussi. C'est vrai qu'on parlait de premier contact, mais je l'oublie. C'est les deux que j'ai vraiment eu au début. Et Ultimate Battle 22, pareil, j'étais vachement frustré parce que je me rappelle, moi je voulais des vrais caméas et il n'y avait pas de vrais caméas, tu vois, c'était vraiment des boules qu'ils envoyaient. Et moi j'étais en mode,
c'est ça,
c'est pas possible, mais faites-moi un vrai caméa.
Caméa,
c'est ça, t'as l'autre, t'as Final Bout, il t'envoie des caméas, ça dure 3 ans pour l'animation. Ouais, caméa, tu vois. Et t'as d'un autre côté Ultimate Battle 22 qui te propose mais un nombre de personnages, un roster énorme,
ouais.
et qui en fait finalement la boule de feu c'est toujours la même, quoi. Enfin, tu sais, l'attaque c'est toujours la même.
Et en plus il y avait Tromperie parce que toutes les boutiques genre Micromania et tout ça jouaient là-dessus. L'intro du jeu c'était le dessin animé.
Ah
et
oui.
Après il y avait le jeu, quoi.
Il y avait le jeu et puis il y avait la boîte, mine de rien, parce que la boîte de Ultimate Battle 22, elle est incroyable. La boîte, la notice, tu la prends, tu dis tiens, j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de foutre la galette. Tu vois, dans la play. Pareil pour Final Bout. Tu voyais Sangoku comme ça, hyper classe et tout. Son GT un peu. Ouais. C'est vrai que c'était ouf.
C'est vrai qu'ils jouaient beaucoup là-dessus. Moi, je me rappelle les packaging et les pubs à l'époque qui étaient dans les magazines, tu sais. T'avais des doubles pages avec des encarts avec Sangoku et tout. Et tu disais, bah, il me le faut absolument. En fait, même sans savoir vraiment de quoi le jeu allait parler ou allait être, tu te dis, bah, il me le faut, quoi, c'est tout.
Il y avait l'intro qui passait sur Final Bout, elle était légendaire, je me rappelle. Et en fait, finalement, tu te dis que c'est l'un des seuls trucs qui était bien dans le jeu.
Bah, clairement. Clairement.
Même Freezer, il s'appelait Freezer, il l'avait quand même appelé Freezer, F-R-I-S. E-U-R, comme un freezer, comme un défreezer. Je sais pas si vous regarderez un petit peu le roster. Et moi, j'ai revu ça plus tard.
Il y avait des gros soucis de trad, hein, sur tous les jeux DBZ, les premiers, ouais, pareil, les sur premiers. SNES. Il y avait des gros soucis de trad. Et après, ouais, bon.
Ça s'en foutait un peu à l'époque.
Broly,
aussi.
Ouais, c'est ça.
Je crois que c'est sur la Légende Saiyan ou Ultime Menace, un des deux. Il y avait Broly dedans. Broly, il s'appelle genre Kujata. Rien à voir. C'est les noms, ils étaient éclatés au sol. Les mecs, ils s'en foutaient, ils traduisaient ça parce que fallait que ça se vende aux petits Européens et puis ça leur allait bien, quoi.
Ouais. C'est clair. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue et tout. C'est le genre de jeu, franchement. Ils auraient pu s'appliquer un peu sur les noms des rosters et tout parce que, bon, en vérité.
Ouais, alors déjà, les noms n'étaient pas les bons, puis les traductions, elles étaient aux fraises. Il y avait quatre phrases, quatre lignes de dialogue, c'était en textuel et ça voulait rien dire. Il y avait
c'est
quatre lignes à trois dire, c'était raté, quoi. Mais bon, ça avait son charme.
C'est vrai que c'est dommage parce que, en plus, la France a toujours été un gros consommateur de manga et notamment des Dragon Ball et Dragon Ball Z. Au moins, tu vois, les versions FR aurait pu avoir une équipe dédiée sur la trad, mais je pense qu'en fait à cette époque-là les studios étaient beaucoup plus petits que ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
Justement, la France en particulier dans l'Union européenne était très consommatrice, et justement l'épisode dont on taira un peu le nom, c'est l'appel du destin sur Mega Drive, c'était un épisode exclusivement en français. Bon, par contre sur la Mega Drive c'était pas une réussite, et pour le marché espagnol il y avait juste la notice qui était traduite en espagnol, mais le jeu était en français, les Espagnols devaient jouer au jeu en français. Incroyable.
C'est fou, surtout pour l'époque, quoi. Il y avait quand même peu de trad, et se dire qu'il y a quand même eu des équipes qui ont développé un jeu en français, qui ont réussi à le vendre ailleurs et en français, alors que nous, on était plutôt souvent à jouer à des jeux en anglais. Moi, j'ai souvenir, je pense que jusqu'à l'ère PS1, la plupart des temps, les jeux étaient en anglais, ça ne me dérangeait pas plus que ça, quoi.
Ouais,
donc,
il y avait pas il y avait des RPG, évidemment, souvent qui n'étaient pas importés, quand même, faut dire ce qui est, tous les Rune Quest et tout d'époque et tout, c'était compliqué. On a retrouver Dragon Quest qu'à partir de l'épisode 8 sur PS2 par exemple. Mais je veux dire, les jeux qui avaient beaucoup de, comment dire, sur l'ère 16 bits, 8 bits, beaucoup de textes et de dialogues, etc. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont restés soit au pays du soleil levant, soit aux portes de l'oncle Sam, du pays de l'oncle Sam. Tu vois,
ouais.
Donc, ça a été un peu. Nous, on avait besoin, en fait, en tant qu'Européens, bon, c'est assez américain aussi, mais de jeux assez bourrins, d'action, de jeux de combat, de trucs comme ça. Enfin, c'est ce qui était estimé par les éditeurs souvent. Et donc, c'est vrai qu'il y avait moins cet aspect dialogue sur certains points. Après.
Mais c'était peut-être aussi parce qu'ils ne voulaient pas se faire chier à traduire, hein, qui nous proposait quoi, tu vois.
Je veux dire,
quand t'es gamin, que t'as 8 ans et que tu dois te taper des pavés tout en anglais, que tu comprends rien, il y a un moment, c'est sûr que t'as que moins bien le jeu que s'il était traduit en français, quoi.
C'était moins cinématographique aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si tu traduis pas ton Uncharted ou ton God of War, ou ton... c'est pas possible, tu vois, ça passera pas.
Non, mais je suis d'accord. Alors, bon.
C'est ça. Après, il faut remettre dans le contexte de l'époque, c'était pas les mêmes marchés.
C'était du jouet presque. C'était considéré comme du jouet pour certains éditeurs. Pour les éditeurs ou pour les gens, en fait.
Même les parents, ouais, clairement.
Les parents, voilà. Donc,
pendant longtemps, le jeu vidéo était rangé à côté des Lego, des poupées Barbie et tout ça. Enfin...
Ah ouais, mais clairement.
Le fameux magazine de Noël, là, avec les. On avait le côté jouet, puis après, juste à côté, hop, les jeux vidéo, là, qui se posaient tranquille.
C'est ça, à côté des lecteurs cassettes et des baladeurs.
Exactement.
Moi, j'ai la chance que les peu de jeux que j'ai gardés, j'avais gardé les boîtes et tout, mais j'ai plein de souvenirs de potes qui balançaient, comme quoi, tu t'en parles souvent dans tes vidéos aussi, hein, mais qui balançaient les notices, qui balançaient les boîtes, parce que vraiment, tu vois, ça prenait de la place et en fait, ils avaient un sac avec toutes les cartouches, notamment à l'ère SNES. La NES, c'était peut-être encore un peu gardé parce que c'était nouveau et puis, tu vois, on appréhendait le truc, mais sur SNES, je me souviens vraiment de potes qui avaient des sacs entiers comme ça de jeux de cartouches qui se trimbalaient et tu vois, tu venais chez ton pote, tu venais avec ton sac, avec ton lot de cartouches et basta, et les cartons avaient déjà disparu, quoi.
Et puis là, souvent, on nous vendait, les magasins de jeux vidéo de l'époque aussi vendaient de l'import, parce qu'il y a des consoles qui n'étaient pas zonées, comme la Game Boy, par exemple, où tu pouvais très bien jouer à des jeux japonais sans même le savoir, et tu te retrouvais avec une cartouche qui était en fait vendue, mais toi, tu l'achètes parce que tu voyais l'image, la petite cartouche, tu disais, oh putain, sympa. Et en fait, tu te retrouvais avec un jeu Jap ou jeu pas traduit en français, quoi, un jeu en anglais et tout, et tu étais en mode, voilà, tu vois, je vais jouer avec ce que j'ai, quoi. Mais à l'époque, c'est vraiment, on avait ce côté un peu, comment dire, les parents nous achetaient ça parce qu'ils voyaient ça peut-être à bon prix et tout, et ils savaient même pas eux-mêmes que c'était de l'import, tu vois.
Oui, non, mais c'est clair, ils comprenaient pas. Non, mais c'est sûr.
Console, hein. Bon, la SNES n'était pas concernée, évidemment, parce qu'elle a eu des versions différentes, mais la Game Boy, c'était typiquement, tu pouvais te retrouver avec, je sais pas, Dragon Ball sur Game Boy, alors que t'avais pas demandé forcément celui-là, quoi, mais bon.
Ouais, tu prenais ce qu'il y avait.
Voilà,
tu prenais ce qu'il y avait.
Exactement.
C'est clair.
C'était moins connu et démocratisé qu'aujourd'hui aussi. Il y a ce phénomène-là. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Les parents aujourd'hui sont plus avertis, déjà, parce qu'on a été nous-mêmes des joueurs il y a 20 ans, 25 ans. Nos parents, ils découvraient le jeu vidéo en même temps que nous, sauf qu'ils n'avaient pas le même engouement, quoi.
Ouais.
Pas tous. Certains, oui, mais pas tous, quoi.
Totalement.
Non, mais c'est sûr. Moi, mes parents.
Les miens, c'est sûr que non.
Pareil, moi, je le dis souvent, à part Mario, parce que, comme je le dis, Mario était tellement accessible, en fait, que, tu vois, ils ont voulu essayer, quoi. Après, dès que c'est parti sur d'autres types de jeux, ils ont jamais rejoué à des jeux. Peut-être Tetris, un petit peu, qui était un peu à la mode à l'époque, mais c'est tout, quoi. Sinon, et le Pong. sinon, c'était tout. Donc voilà, c'est vrai que quand ils achetaient des choses, c'était pour essayer de nous faire plaisir, sans forcément connaître. Hein. Donc, des fois, ouais, tu te retrouvais... Moi, j'ai eu des jeux qui n'étaient pas forcément ceux que j'attendais, mais voilà, on a fait avec, quoi. On a fait avec.
Ouais, et puis comme t'en avais deux parents, tu sais, avec
c'est ça.
Que le prochain, c'était dans 6 mois, voire
c'est ça.
Un an.
Ouais, après, quand j'ai grandi, je pense qu'arrivé à 13, 14 ans, où là, tu vois, c'était un peu le début de l'adolescence quand même, où tu commences à prendre un peu, tu vois, tes marques, et là, tu commences à leur dire, ça serait bien que tu m'achètes ci ou ça. Mais avant, sincèrement, je prenais ce qu'ils m'achetaient, quoi, clairement.
Ouais, t'étais content. Aussi, on était heureux avec rien, tu vois, c'était un peu la différence avec maintenant. J'ai l'impression que même les plus jeunes, enfin, on est devenu très 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 comment dire, il y a moins d'innocence, il y a moins d'insouciance aussi dans le jeu vidéo, il y a moins d'innocence qu'à l'époque aussi.
Donc juste pour revenir sur le lore, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Dragon Ball, on suit l'histoire de Sangoku qui est à la base petit garçon qui va grandir, qui va avoir plus tard sa propre famille, qui vient d'une autre planète et qui a des capacités physiques un peu hors normes et qui va l'utiliser pour défendre la Terre. Grosso modo, on est à peu près là-dessus. Il y a beaucoup de personnages, donc on va pas tous les citer parce que sincèrement, ça va être très compliqué de faire tout le lore complet de Dragon Ball ou Dragon Ball Z, mais c'était au moins pour situer pour les gens. La plupart des jeux jeux vidéo dont on va parler, c'est ce qu'on a dit, c'est quasiment tous des jeux de combat, hormis les premiers sur NES, et hormis les derniers, pour certains, qui ont apporté une petite phase d'exploration en plus, mais en grande majorité, c'est plutôt des jeux de combat. Voilà, voilà. On va faire un petit tour. Alors, les dates de sortie, pareil, on va pas toutes les donner. J'ai regardé, il y a environ 70 jeux qui sont sortis sous l'enseigne Dragon Ball ou Dragon Ball Z. 70 jeux vidéo sur tous supports confondus, donc ça va être compliqué de tous et toutes les citer. Par contre, on va citer un petit peu peut-être les connus ou les plus, en tout cas, intéressants. Je sais pas, Stéphane, t'avais préparé un truc, je sais pas si tu veux nous refaire
un petit... Ouais, j'avais préparé pas mal de choses. Alors déjà, pour refaire un point sur le lore, on suit à la base, effectivement, les aventures de Sangoku dans le manga Dragon Ball. Dragon Ball, c'était le manga d'origine, et on suit le petit Sangoku qui est enfant et qui vit plein d'aventures à la recherche des boules de cristal pour invoquer le dragon Shenron et pouvoir exaucer un vœu. Ça, c'est la quête de départ. Et puis après, quand est arrivé Dragon Ball Z, c'est son fils qu'on va suivre. Et l'ambition de Toriyama, c'était de dire, on change de héros et ça va se clôturer sur la relève qui arrive. À la base même, ça devait s'arrêter à la fin de Dragon Ball quand on est contre Freezer et il devient super guerrier. Puis après, il a été un peu forcé par la Toei pour continuer et il a fait Dragon Ball Z. Et là, c'était censé être Sangohan, son fils, qui prenait le relais. Majorité des jeux retracent plutôt les Dragon Ball Z et principalement en jeu de combat. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur les jeux Nintendo NES, à la base, c'était des jeux d'aventure et c'était des jeux Dragon Ball. Dragon Ball n'était pas sorti encore. On était encore au manga et à l'animé Dragon Ball. Et en Europe, on connaissait pas. C'est pour ça que les jeux, ils sont pas très connus. C'était années 80. Ça a commencé le premier en 84, si je dis pas de bêtises. Entre 86 et 93 pour ceux sur NES. Et après, on a eu les épisodes Super NES dont on a parlé tout à l'heure. Et j'ai dû donner les dates aussi. Après, on est arrivé sur l'ère PlayStation avec donc Ultimate Battle 22 le fameux qui était même en fait Ultimate Battle 27 parce qu'il y avait 22 personnages plus 5 débloquables.
Ouais, totalement. Voilà. Même le titre était trompeur en fait. Mais bon,
exactement. Tout était trompeur dans ce jeu. Et celui-là est sorti en 95. C'est vrai que le passage à la 3D, il a été catastrophique. C'était laid, c'était lent, les animations, elles étaient pas terribles. Il y en a eu un autre, donc Legends, qui était plutôt pas mal parce qu'il a il introduisait en fait le 3 versus 3. C'était plutôt intéressant de pouvoir faire des équipes de personnages.
Et puis, il y avait un scénario un peu réadapté de ça. Et c'est vrai qu'en fait, il est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs, encore même aujourd'hui, l'un des meilleurs scénar d'un jeu de combat Dragon Ball à ce jour. Si jamais les gens ne l'ont pas fait, ça peut être intéressant.
Ouais. S'il y en a je pense, sur Saturne, ça doit être compliqué. Parce que je pense que le plus joli, ça devait être certainement sur Saturne. À trouver, c'est peut-être pas évident. Mais je sais pas la cote de ce jeu. J'ai pas prévu de parler des cotes dans cette émission-là, parce qu'il y en a tellement que ça va être compliqué. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à trouver.
Ouais. Et donc, sur la PlayStation, on a fini avec Final Bout, je crois, qui était le dernier sorti sur la PS1. La 3D était immonde. C'était beaucoup centré sur Dragon Ball GT. On était en fait en pleine
transition.
Transition, on était à la fin de Dragon Ball, en fait. C'est la période où Dragon Ball s'est arrêté. On est arrivé. C'était la fin. GT était terminé. Le Club Dorothée s'est terminé. Et du coup, l'engouement, en plus, était un petit peu fini autour de Dragon Ball. Et c'est pour ça qu'il y a eu, en fait, un petit désert entre 96 ou 98, le Final Bout, et 2002, avec l'arrivée des Budokai sur la PS2. Et alors là... le renouveau, quoi.
Ouais.
Le premier était pas ouf. Et puis en plus, c'était de la pure 3D, alors qu'avec le 2, ils ont intégré le cel shading. Et là, on avait vraiment l'impression de jouer au dessin animé. Et c'était, c'était vraiment un gros gap.
Par contre,
sur le premier, Budokai, il y avait quasiment 80% du scénario qui était couvert. Il y avait un roster déjà assez conséquent. Donc c'était très appréciable d'avoir ça, quoi.
Et c'est un énorme gap, moi, je trouve. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu es quand tu arrives sur PS2, sur GameCube, parce que le 1 sort sur PS2 GameCube, et le 2 sort sur PS2 GameCube aussi. Effectivement, tu passes. Il faut quand même dire que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs années que c'est cool et tu passes de Final Bout et tu as Budokai en 3D comme ça et ça fout une espèce de gifle énorme et avec pareil, comme tu dis, il y a un bon lore derrière et tout. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur Budokai en termes à ce niveau-là. Je parle entre le 1, 2, 3. Après, moi, le 3, ça reste mon préféré. Je trouve qu'il était extraordinaire. Ça s'est enchaîné. Il y a eu 2002, 2003 ou 2004, 2005, je me souviens plus.
Ah, c'est 2002, 2003, 2004.
Ouais, ça s'est enchaîné de fou. Les 1, 2, 3, là, je me rappelle. C'était un truc de malade et on arrive sur le 3 qui pour moi parachève vraiment le le côté versus fighting de Dragon Ball, si tu veux, avant qu'on passe la localité de Kashyyyk, on reviendra dessus avec une vue un petit peu en arrière, à l'arrière du personnage comme ça. Et ça reste aujourd'hui pour moi Budokai 3, je pense. En tout cas sur PS2, en tout cas sur la 128 bits, peut-être le meilleur jeu de combat Dragon Ball à ce jour. Enfin, moi, je trouvais extraordinaire.
Je te rejoins là-dessus, Quentin. Je suis assez d'accord avec cette analyse.
Avec l'intro, purée, les intros des débuts de Kashyyyk.
Par contre, c'est clair.
On les regarde encore aujourd'hui, on a toujours le petit frisson qui nous parcourt et on se dit, mais on a envie de relancer le jeu et de se remettre des petites capsules comme ça, refaire le World Tour, enfin tous ces trucs, enfin, c'était vraiment trop.
J'avoue que moi, ça m'avait fait peur l'intro, parce qu'elle était magnifique et je me suis dit, ah non, ils nous refont pas le coup de Final Bout et de Ultimate Battle, hein. Ah non. Et le jeu était là quand même au rendez-vous, donc heureusement, l'intro était à la hauteur du reste du jeu, donc ça va, c'était correct.
C'est clair. Il y en a qui parlent aussi du Infinite Ward, effectivement, c'est vrai que le Infinite Ward était là. Ensuite, c'est vrai qu'il m'a pas marqué, moi, tu vois. Alors, peut-être que c'est parce qu'il est sorti en plus petit, en peu d'exemplaires par rapport au niveau du tirage à ce qu'on a vu précédemment. Mais
alors, c'est surtout que la PS3 était déjà là
aussi. Voilà, c'est peut-être aussi la
PS3
raison.
Était déjà là. Et puis, en fait, les Tenkaichi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont quand même amélioré la formule. Et je pense qu'ils ont compris l'essence de Dragon Ball qui est vraiment les combats à distance et le monde ouvert. C'était déjà un petit peu abordé dans le Budokai 2 parce que le mode histoire était une espèce de jeu de plateau où on pouvait se déplacer, et dans le 3 où on avait un pseudo monde ouvert où on pouvait aller naviguer sur la map, chercher ses combats, mais dans les Tenkaichi ça a été quand même vraiment mis en avant, et est arrivé justement ce Infinite Ward, c'est ça?
Très tardivement,
en fait, très tardivement, et après les Tenkaichi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les développeurs de Tenkaichi, c'est pas les mêmes que les Budokai. Contre Infinite Ward, c'est ceux qui ont fait les Budokai, donc en fait ça a été un espèce de ils ont voulu faire un Budokai 4 en fait. C'était un petit peu ça, en essayant d'améliorer la formule, mais moi j'en ai été très déçu parce qu'en fait c'était jonché de mini-jeux pas terribles, c'était fastidieux, c'était mal présenté, et finalement ça enlevait pas mal d'éléments de l'histoire, même si on la connaissait par cœur, l'histoire, on était quand même content de la suivre. Ça les a pas empêchés, il n'y a pas si longtemps, de faire Kakarot, qui finalement est beaucoup plus centré sur l'histoire, l'exploration, que sur le combat en lui-même.
Ouais. Donc, alors, sur Kakarot, on va y revenir parce qu'on va retraverser un petit peu toutes les générations, mais je pense qu'ils ont aussi voulu revenir sur l'histoire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent aussi à se remettre à. Mon fils, par exemple, regarde encore des Dragon Ball. Il y a eu Dragon Ball dans Fortnite. Pareil, hein, faut dire ce qu'il est. Pour tous les gamins, ça leur a donné envie de regarder ce qu'il en est. Et je pense qu'ils ont voulu remettre de l'histoire pour, tu vois, recéder un petit peu tout ça, quoi. C'est pas forcément destiné à nous, parce que nous, l'histoire, on la connaît, mais plutôt pour les jeunes de dire, on remet de l'histoire, regardez un petit peu comment c'est venu jusqu'à là, etc., quoi.
L'histoire, on la retape avec
plaisir. C'est clair.
C'est clair. En fait, ça fait 20 ans que l'histoire, c'est les mêmes. C'est Freezer, Cell, tout ça, enfin, sur Dragon Ball Z, Namek, machin, etc. En fait, on le refait avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, on le verra plus tard, mais ce sera peut-être un jeu digne de ce nom qui retrace un peu Dragon Ball Super, même si ça a été pas unanimement approuvé, hein, disons-le. Mais en tout cas, il y a eu Fighters avec quelques combattants, mais pas d'histoire retracée, j'allais dire, avec où tu peux te battre avec Freezer dans le combat des univers et tout. Enfin, bref, voilà.
Alors, peut-être qu'ils vont faire ça dans Sparking Zero. On en sait très, très peu de cet opus à venir, là. Peut-être que ça va plus s'axer sur Super, je sais pas.
Sparking, c'est le nom de Budokai au Japon. Enfin, faut le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi Sparking pour Budokai Tenkaichi 4, entre guillemets.
C'est
le nom Budokai, quoi.
C'est
exactement
ça.
Et du coup, pour continuer un petit peu, donc en effet, il y a eu les Budokai. Alors, c'est pour ça que je vous parlais d'air, parce qu'il y a eu les airs SNES où vraiment c'était une façon de voir le jeu Dragon Ball d'une manière. Il y a eu la période NES avec l'action-aventure, SNES, comme on l'a vu, les débuts des jeux en combat en 2D, des tentatives de 3D sur la PS1 avec plus ou moins de succès, comme on a vu, les Budokai, et après, donc, en effet, on arrive sur les Tenkaichi qui sont... Alors, je sais pas, moi, c'est vrai que je préfère les Budokai, mais parce que peut-être je suis plus vieux et que, tu vois, j'ai grandi avec. Moi, c'était vraiment ma période où j'ai commencé à bosser aussi, quoi, j'étais étudiant, et après, j'ai bossé, j'ai pu m'acheter plus de choses. C'est pas vous, votre ressenti par rapport à Tenkaichi?
En fait, moi, si tu veux, j'ai tout de suite été moins intéressé que par le... Enfin, c'est vraiment, moi, l'angle de caméra, le côté versus fighting plus classique me plaisait bien plus. Je sais que Budokai Tenkaichi 3 pour beaucoup reste certainement le meilleur opus PS3 parce que tu as un nombre de personnages conséquents, parce que tu... Enfin, y a même des gens sur PC qui jouent encore et qui créent des fusions encore aujourd'hui avec des mods et tout ça, donc oui, c'est vrai que le gameplay se porte certainement plus avec, en lien avec l'animé, où il y a ce côté destruction des éléments, etc. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais moi, c'est vrai que ça reste le 3. Et ça m'a... Pareil, j'ai un peu quitté. Enfin, c'est pas que j'ai un peu quitté, mais Budokai Tenkaichi, je me suis pas procuré le 2 et le 3. Tu vois, à cette époque, j'ai eu le 1. Et je me suis dit, non, ça m'intéresse un peu moins. Je revenais sur Budokai 3. Et puis aussi, il faut pas oublier, parce qu'on a eu les opus PSP, qui étaient entre temps aussi là, avec Shin
c'était
Budokai.
En intermédiaire.
Qui était en intermédiaire. Et puis, il y a eu le Dragon Ball Adventure, que moi, j'avais adoré sur Game Boy Advance.
Mais sur, sur Game Boy Advance, il y en a eu je sais pas combien.
Sonic Warriors,
qui était très cool, très cool,
très, très
qui était
bien.
Peut-être l'un des meilleurs opus justement portables qui existe encore à ce jour. Mais c'est vrai que le notamment le Dragon Ball Advance Adventure qui était incroyable, qui retraçait un petit peu l'histoire. Enfin, l'histoire c'était un peu alternatif, mais t'avais ce côté platformer un petit peu avec Goku que t'incarnais comme ça, très fluide et tout.
Ouais.
Super jeu qu'on oublie.
Advance Adventure, il y a Adventure. C'était plus un jeu de combat.
Voilà. C'était un jeu d'aventure. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Et c'était trop cool.
Alors. Mais c'est vrai que ouais, il y a eu beaucoup d'opus, il y en a eu sur DS aussi, si je dis pas de bêtises.
Trem Butuden, je crois, sur
et Origins,
DS ou 3DS. Origins, ouais. Et puis en 2016, sur 3DS, c'est sorti Dragon Ball Fusion, qui était assez original parce qu'on pouvait faire des fusions complètement barrées.
Folle, ouais.
Et c'était très très sympa. L'histoire, elle était particulière parce que c'était encore un futur alternatif. Ça sert beaucoup des futurs alternatifs. Enfin, la Shin Budokai, c'était ça aussi. Hein. C'était un futur imaginaire sur le Trunks du futur. C'était intéressant. C'est d'avoir tous les méchants qui débarquent d'un coup dans l'univers du futur Trunks.
Ouais.
Et Dragon Ball Fusion, c'était un peu ça, mais avec des fusions complètement barrées.
Il est trop cool, un peu tactical. Était vraiment, vraiment cool. Et d'ailleurs, très sous-coté, je trouve, encore aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup, finalement, quand on parle de jeu Dragon Ball. Moi, c'est Ganesh qui a insisté pour que j'y joue. Il m'a dit, Axel, il faut que tu vois ce jeu. Il m'a dit, je te l'envoie, je m'en fous, achète-le et tout. Et en fait, c'était une très, très bonne surprise parce que la jaquette m'attirait pas tellement le côté chibi, tout ça au départ. Et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus profond que ce que ça en a l'air en termes de gameplay, tout ça. Donc, je le recommande aussi de fou ce petit Dragon Ball sur 3DS.
Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des jeux Dragon Ball sur console de salon et on oublie assez vite ceux sur portable, alors qu'il y a eu des opus qui étaient aussi incroyables, quoi. Et notamment en termes d'histoire, du coup, qui étaient plus intéressantes que les jeux de combat qui restaient des jeux de combat, quoi qu'il en soit, quoi.
Donc, mais les gens veulent se battre, hein, tu sais ce que c'est. Enfin,
c'est sûr.
Ils arrivent, ils sont avec des potes, ils ont envie de se fracasser la tronche et c'est un peu. C'était facile. T'as vu Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, Budokai Tenkaichi 1, 2, 3. C'est pas qu'ils se sont pas pris la tête, mais ils ont juste continué sur une formule qui a pendant. Allez, 6-7 ans, tout démonter sur son passage chaque année, quoi. Donc,
Je trouve qu'ils ont fait l'effort d'améliorer la formule,
de
respecter l'œuvre d'origine.
Sûr.
Et je trouve c'est là où, dans les Tenkaichi, même si je les ai moins aimés, il y avait cette essence même de Dragon Ball qui est le monde ouvert, les combats à distance. Et ça, ils l'ont bien compris et ils l'ont très très bien implémenté. Donc ça, pour le coup, c'est une réussite. Après, une des grosses différences entre les deux aussi, c'était le combat en lui-même, les boutons qui étaient utilisés. Ouais. Il me semble de souvenir. Mais vous me corrigez si je dis des conneries, dans les Budokai 1, 2, 3, c'était un peu plutôt style Tekken avec des combinaisons de touches particulières pour faire les combos. Alors que dans les Tenkaichi, on était plus à un style de jeu comme Street Fighter avec des quarts de cerf. C'était au niveau jouabilité, c'était différent. Et moi, aimant beaucoup Tekken et donc les Dragon Ball Budokai, arrivé à Tenkaichi, ça m'a un petit peu rebuté.
C'est moi ta cam un petit peu, en fait.
C'est ça. Et un peu comme toi, émule-moi. Moi, j'étais pour les Budokai 1, 2, 3, j'étais à l'ère lycée, début des études supérieures. Et puis en 2007, c'est quoi? C'est 2007. 2005, 6 et 7, j'étais sur la fin des études supérieures, début de la vie professionnelle, je suis un peu plus passé à côté, quoi, forcément. L'agenda personnel qui fait que je jouais moins à la console.
Je pense qu'en grandissant, effectivement, on a tous eu un peu ce côté-là. Bon, moi, c'est vrai que peut-être étant un peu plus jeune, j'étais encore... il y avait ce côté où je pouvais encore, même pendant les études et tout, on va dire, on n'avait pas trop d'autres choses à penser que juste faire étudier et puis jouer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est très intéressant, parce que j'ai lu dans le chat... On n'a pas parlé d'un jeu quand même qui est l'un des rares cas de jeux vidéo J'allais dire, ouais, quoique. Allez, on va dire de jeu vidéo meilleur que son film. Son adaptation en JV, c'est quand même Dragon Ball Evolution.
Ah oui.
Parce qu'en vrai, il est nul. Enfin, il est pas terrible. Faut dire ce qu'il est. Non, mais il est pas bon. Mais
ah, il est aussi bon que le film.
Par au film.
Non,
ouais.
Non, il est mieux que le film quand même. Tu vois, enfin, franchement,
ouais.
Soyons honnêtes, c'est un jeu de combat très. Allez, on passera. C'est pas ouf. C'est générique au possible. Il n'y a rien qui se passe. Mais le film est tellement un des troncs qu'au final, tu te dis le jeu vidéo à côté. Déjà, ouais. Qu'il y a un jeu tiré de ce film, t'es un miracle.
Mais bon, après, je pense qu'ils y croyaient, quoi. Quand, en fait, quand ils ont fait le live action comme ça, ils se sont dit, ouais. Ça va, c'est bon, on va tout casser, quoi. Et ouais.
Effectivement.
Ah là, c'est que ça fait.
Tout casser, mais.
Ah ouais, tout casser dans l'autre sens, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Il y a un moment, il faut arrêter. Ça fait beaucoup d'adaptations. On parle quand même d'un manga qui est issu d'un livre, un film qui est issu du manga, et le jeu qui est issu du film, issu du manga, issu d'un livre. Et je rappelle, l'histoire de Dragon Ball, c'est un roman chinois qui s'appelle Le Voyage en Occident, où c'est l'histoire d'un petit homme singe qui va en Occident. Donc ça part de très très loin en fait, l'histoire.
Ouais.
D'arriver jusqu'à ce niveau d'adaptation, et à un moment on dit ouais, stop. Ça sentait mauvais dès le départ.
Clair. Ça sentait pas bon. Et on n'a pas parlé aussi de. Moi j'avais adoré, mais bon, j'étais jeune et je sais que ça a fait un peu débat. Mais je pense qu'à partir du deuxième, c'était bien mieux, c'était Legacy of Goku, les épisodes, les RPG sur Game Boy Advance. Ah, franchement, moi, l'héritage de Goku, pardon. Mais l'héritage de Goku, franchement. Alors au début, moi quand j'étais jeune, je voulais un RPG Dragon Ball, vraiment. Et donc je me suis dit, waouh, c'est une des premières fois que je vais pouvoir enfin tâter un vrai RPG sur console portable, Dragon Ball et tout. Alors c'est très répétitif, les attaques, etc. C'était un peu toujours la même chose. Je m'en rendais pas compte, parce que quand on est jeune, on se rend pas trop compte de tout ça. Et par contre, à partir du deuxième, moi je trouvais que c'était beaucoup plus diversifié et c'était très intéressant. Et on n'a pas eu le Boost Fury, malheureusement, nous, en France. Et il paraît qu'il est excellent, il paraît qu'il clôture très très bien. Je l'ai jamais fait, c'est un peu un de mes regrets de joueur. Je sais pas si vous les aviez fait, ces opus GBA.
Non, pas du tout. Hein. Mais en plus, il faudra regarder parce que ça se trouve, il y a des remakes traduites avec des patchs FR.
Il y a un épisode que je voudrais évoquer parce qu'on a parlé d'évolution. C'est Dragon Ball Kinect.
Ah, c'est vrai.
Mais lui, c'est après. C'est après quand même, lui.
Eh ben, c'est 2012.
Ouais, ouais. Il y a eu Raging Blast avant, non ? Ou je sais plus.
Alors, les Raging Blast, effectivement, ils sont sortis sur PS3.
Ouais, ouais.
Mais on arrive avec Kinect. Le concept était génial. Qui n'a pas rêvé, étant gosse, de faire soi-même le Kamehameha devant sa télé ? La promesse était au top. Bon, le résultat, il n'était pas ouf, quoi. On avait plutôt l'air d'un con devant sa télé.
Comme beaucoup de jeux Kinect, hein, malheureusement. Alors, il y a eu des bons jeux, mais le Harry Potter.
Oui, mais celui-là
Kinect,
était raté.
Pareil.
Ouais, il y a eu des bons jeux. Hormis Kinect Adventure, sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup de grands jeux sur Kinect.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu les Just Dance, finalement, que tu
dis. Oui, après les Just Dance.
Dance Central aussi.
Voilà. Mais bon, sinon, c'était un peu complexe. Alors Dragon Ball en Kinect, fallait vraiment
mais c'est dommage, hein, parce que c'était une technologie qui était incroyable, hein, la Kinect,
bien sûr.
Surtout pour l'époque, quoi. Mais bon, mal exploité.
Après, je me verrais pas intégrer moi-même, tu vois, et c'est en ça que pour moi c'était pas forcément, enfin l'idée était cool, mais voilà, sans plus, je me verrais pas intégrer moi-même le personnage de Goku avec des, ou alors, enfin, tu sais, avec des pouvoirs, parce que tu t'identifies tellement au perso, en fait, finalement. Tu aimes tellement les personnages du manga, de l'anime, que t'as envie d'avoir ces persos, d'incarner ces persos. C'est vrai que Dragon Ball, moi je trouve, après je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on sera d'accord, c'est vrai qu'après l'ère PS2 et l'ère 128, PS2, GameCube, tout ça, il y a quand même une petite traversée du désert pour les jeux Dragon Ball. Enfin, moi ça m'a moins marqué, tout ce qui était Raging Blast 2. Alors c'était pas des mauvais jeux, par exemple, mais quand on parle de Battle of Gods, ou je sais plus, enfin le Battle of Z,
oui,
alors eux, ils sont arrivés, Battle of Z ou Battle of Gods, je sais plus, l'un est issu du film qui est sorti,
ouais,
en
c'est
fait,
ça, hein. Il était à chier,
c'était juste pour surfer sur la vague du film, la hype étant relancée parce que Dragon Ball reprenait, il fallait un jeu qui va avec.
Et Ultimate Tenkaichi, tout ça entre temps, Raging Blast 2, ça. Bon, c'est pas mauvais Raging Blast, attention, mais c'est pas, ça ne révolutionne
rien. Non, mais on sortait de l'excellence avec les Budokai et les Tenkaichi, que derrière c'était beau, c'était très beau visuellement, c'était la PS3, c'était magnifique, mais ça valait pas la jouabilité, l'histoire qu'il y avait dans les Budokai et dans les Tenkaichi.
C'est sûr.
La formule était dépassée. Ils n'ont pas su se renouveler correctement. Et celui qui a réussi à se renouveler, finalement, c'est FighterZ.
Ouais.
Parce que je trouve qu'on est arrivé sur un vrai jeu de combat, compatible e-sport, 100%, qui est à la fois accessible mais exigeant, si on veut vraiment pousser très loin. Et au niveau animation, on était vraiment dans du Dragon Ball. Là, pour le coup, du dessin en haute qualité, c'est vraiment joli à voir. Ouais, voilà, FighterZ, il est très, très beau à voir.
Encore
par contre, il n'est pas sans défaut.
Ouais.
Il est arrivé avec un roster qui était un petit peu léger, où tout était en DLC payant, le jeu avec tous les DLC, il revient à presque 150 balles quand même.
Ça va, c'est le jeu vidéo vidéo de maintenant, c'est pas grave.
Non, vrai.
Ouais, mais c'est. Merci, oui, merci, c'est
grave. Fini Dragon Ball Ultimate Battle 22, enfin 27, tu vois, c'est.
Ah, ah ouais, maintenant c'est. Plus... c'est Fighter Z avec.
Plus
ouais.
5, tu payes.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, dans les 22 d'origine, ils étaient tous débloqués. Là, il faut en débloquer certains, et voilà.
C'est vrai, mais il y avait aussi les Xenoverse entre-temps. Après, je pense qu'Emule va peut-être en parler un petit peu, mais...
Ouais, moi, je les ai bien aimés. Je sais que c'est pas ceux qui sont préférés par beaucoup de monde, parce que c'est une période où j'ai commencé à me remettre un petit peu au JV, et tu vois, c'est ce que je disais, il y a eu toute une période où j'avais un peu stoppé ça, et puis arrivé donc à 30, 32, par là, je pense que je me suis remis un petit peu à jouer, et du coup, moi, je les ai bien accueillis parce que bah, ça faisait peut-être 10 ans presque que j'avais plus rejoint un jeu Dragon Ball, tu vois. Donc,
c'est
ça. En fait, c'est l'expérience personnelle qui fait que, bah, au final, moi, je les ai trouvés pas si mal, quoi.
C'est des jeux qui sont bien vendus. En plus, c'était des gros.
Ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Et c'était dispo sur PC, c'était dispo sur. Moi, j'avais plus de console à l'époque, donc ça m'allait bien, tu vois. Ça m'allait bien. Donc, c'est sûr que c'est des opus. Voilà, je sais pas si. Les gens dans le chat peuvent nous dire ce qu'ils en ont pensé, mais moi que j'ai bien accueilli, que ce soit le 1 ou le 2, je les ai plutôt bien accueillis, quoi. Donc,
ils avaient l'avantage en tout cas d'apporter un peu de renouveau à la licence, parce que Xenoverse, bah, c'était des histoires alternatives,
ouais.
Donc on n'était plus dans l'histoire d'origine de Dragon Ball, et ça apportait une autre vision, un peu comme ils ont fait dans l'animé Dragon Ball Heroes, c'est ça?
Oui, alors oui, ça c'était effectivement avec
ils mélangent du GT, ouais c'est ça. Les Xenoverse, c'était un peu ça. D'ailleurs, tous les personnages qui sortaient dans Heroes, pouf, ils étaient intégrés en mise à jour dans les Xenoverse, hein, surtout dans le 2, il me semble.
Oui.
Donc, ça avait cet intérêt de dire on renouvelle un petit peu en apportant une histoire différente. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Voilà.
Quand ils font un deuxième, en général, c'est que le premier a plutôt bien fonctionné.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr.
Et le deuxième, il est encore mis à jour aujourd'hui.
Ouais. Et il s'est très très bien vendu. Je crois que c'est vendu à plus de 5-6 millions, voire même 7 millions d'exemplaires, ce qui est énorme.
En vrai, c'est un carton.
Et il s'est même mieux vendu que Xenoverse 2, il me semble. J'avais lu un petit peu que Fighters à ce jour.
C'est possible.
Et ça, on pensait pas, tu vois. Enfin, maintenant, avec le recul, parce que Fighters, il est sorti il y a 7 ans maintenant. On dirait pas,
2018.
Mais. Ouais, bah c'est ça, 6-7 ans quoi, de 2024 putain, quand tu y penses. Donc il y a 6 ans. Et mine de rien, quand tu fais le comparo des chiffres de vente, je crois que Xenoverse reste encore devant et un de ceux qui s'est le mieux vendu encore aujourd'hui. Donc peut-être un Xenoverse 3 potentiel. Hein. Moi je pense qu'un jour ça risque d'arriver. Après Sparking Zero, il y a tout à fait possibilité qu'ils. Et puis bon, ils peuvent faire un peu un micmac comme ils veulent pour te faire une histoire, puisque c'est voilà.
Vu qu'il n'y a plus d'histoire, ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y a plus vraiment de lien. Ouais, non, mais c'est sûr.
Franchement, je suis pas inquiet pour la licence Dragon Ball, puisque
non.
Dragon Ball Daima va sortir. Donc, allez, à mon avis, il va y avoir un ou plusieurs jeux qui vont se baser sur Daima.
Ouais.
Super va continuer aussi, a priori. Il va y avoir son lot de nouveaux personnages, Black Freezer, et puis certainement d'autres à venir. Donc, il va falloir rajouter. Il y aura sûrement de nouveaux DLC pour Fighter Z pour ajouter les nouveaux persos, pareil pour Xenoverse, et à mon avis, on va avoir des nouveaux jeux qui vont se baser sur ces nouveaux animés.
Ouais.
Tant mieux.
Donner comme ça.
Prolonger leur durée de vie, c'est une bonne chose aussi, quoi. Voilà.
Oui, mais non,
ça permet aux gens de savourer effectivement un peu plus longtemps leur jeu, quoi.
Voilà,
non, mais c'est
permet à l'éditeur de vendre un personnage 5 balles.
Oui,
ouais, mais... ça c'est l'autre problème.
C'est un autre problème.
Ça, c'est, malheureusement, c'est. Ouais, de toute façon, c'est les jeux d'aujourd'hui, on sait que.
C'est la guerre.
Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et après, donc, ouais, Kakarot, qui est le. Alors, je sais pas, c'est le plus récent actuellement, je pense.
Ouais, je crois que c'est.
Il y en a eu un derrière.
Oui, il y a le Heroes, justement, le Heroes sur Switch aussi, on l'oublie. Enfin, je sais qu'il est sorti sur Switch. Est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie.
Il y a The Breakers qui est sorti.
The Breakers, ouais, mais ça c'est.
C'est le dernier.
ça c'est un délire, ça. C'est...
Mais
ça,
c'est quand même le dernier sorti.
Ouais, non, mais c'est bien de le préciser. C'est bien de préciser.
Ça a duré un petit temps, mais.
Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est le dernier.
C'est vrai.
Okay. C'est le dernier en date.
Et du coup, c'est des jeux que vous jouez encore, vous, de votre côté. Alors, sur les récents, peut-être moins, mais sur les anciens, parce que c'est.
Moi, ça m'est arrivé de relancer assez régulièrement, mais pour les besoins de live et tout ça, Budokai 3, qui reste mon opus préféré. Pour moi, le meilleur jeu Dragon Ball à ce jour, mais c'est personnel, hein, évidemment. Il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi.
Bien sûr.
Mais voilà, moi, Budokai 3, ça m'a tellement marqué que y rejouer encore aujourd'hui, c'est un kiff. Et puis, je trouve qu'il vieillit pas. En fait, avec le cel shading, tout ça, il vieillit pas tant que ça. Je trouve que les animations sont toujours super fluides, que ça cartonne bien. Alors, il y en a qui diront oui, Budokai Tenkaichi 3, lui, c'est celui qui vieillit le moins pour beaucoup de gens. Mais moi, je reste un adepte du, du versus fighting à l'ancienne. Et c'est vrai que Kakarot, j'ai commencé, figure-toi. Et en fait, j'étais un peu freiné parce que moi, dans mon esprit, je pensais qu'on allait avoir une vraie jeu d'aventure dans le sens où on allait... aller dans la ville, s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, etc. Mais pas du tout. En fait, tu dois ramasser des boules tout le long, là, comme ça. Et moi, j'étais un peu... ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment. Et j'ai dit, bon, les combats sont très cool.
T'es très guidé.
Très bien respecté, ouais. Mais j'étais en mode, ils pourraient faire tellement quelque chose d'extraordinaire avec ça. Ouais. Tu vois, un RPG vraiment, vraiment de qualité, tu vois, de folie. Donc, ouais, non, Budokai 3 reste le jeu auquel je joue. Et puis, mine de rien, le Fusion... très très sympa que j'ai pu faire dernièrement, donc voilà.
Et bah, sans s'être concerté avant, c'est un peu pareil pour moi. Je reste beaucoup sur Budokai 3, qui pour moi est un des meilleurs, pour pas dire le meilleur. Ouais. Et FighterZ, j'ai vraiment beaucoup aimé FighterZ. Je me le remets de temps en temps, me faire 2-3 combats. Je suis nul au possible parce que j'ai zéro entraînement, mais c'est toujours un plaisir parce qu'il est accessible et puis on peut quand même prendre du plaisir sans être très très bon.
Ouais,
et Kakarot, j'ai essayé, hein. Non, j'ai vraiment pas accroché comme toi, Conker.
J'ai eu du mal.
Je me suis très très vite ennuyé en fait. Et je dis, mais non, m'ennuyer dans un jeu Dragon Ball, ce n'est juste pas possible.
Ouais.
Ça, en fait, il y a trop de temps, j'ai l'impression, de temps entre ce qui se passe, entre les combats, etc. Il y a trop de choses qui se passent et qui sont un peu rébarbatives, tu vois, un peu répétitives. Mais en fait, en vrai, moi, je sais que ceux qui l'ont fini, et ils ont vraiment aimé ce jeu. Il est dans le cœur de beaucoup de gens. Et en fait, il faut que je rentre dedans, et que c'est ma faute, et que j'ai pas eu le temps de rentrer dedans encore. Mais c'est vrai que quand je mets un jeu Dragon Ball, ce que j'attends, en fait, c'est tout de suite du punch et du dynamisme, et c'est peut-être ma faute. Voilà, c'est peut-être ma faute, et voilà. Alors bon, j'ai peut-être aussi moins de patience qu'à l'époque, je sais pas. En tout cas, c'est vrai, quand on voit l'héritage de Goku, il fallait en avoir de la patience, surtout le premier. Mais, mais bon, voilà, je sais pas. C'est peut-être moi. Hein.
Ouais, non, mais après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, tu as tellement le choix que... Voilà, tu vois, il est dans le PS Plus. Je l'ai installé, moi, quand j'ai eu j'ai pris une PS4. Je l'ai installé directement. Et en fait, vu que c'est long, et puis que là, je suis plutôt sur Forbidden West parce que je voulais refaire... J'avais fait Zero Dawn en live et je voulais faire Forbidden West. Et donc, bah, en fait, quand tu te consacres à un jeu, aujourd'hui, on n'a pas non plus 15 000 heures pour jouer chaque semaine, quoi. Hein. C'est ce que je dis. Moi, en off, je joue très, très peu. Quasiment tout ce que je joue, c'est ce que je fais en live. Parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des montages, par exemple. Voilà, j'ai une famille.
Donc, heureusement qu'il y a le live, finalement, pour jouer un peu. Parce que vraiment, en off, je ne joue pas, quoi.
Non, mais c'est sûr.
Moi, c'est un peu là. C'est vrai que je fais très peu de live, donc je joue beaucoup en off parce qu'en fait, j'essaie vraiment d'apprécier mes jeux. En fait, t'apprécies tes jeux d'une autre manière, faut être honnête aussi.
Ah oui, mais c'est sûr.
Quand t'es en direct, t'interagis avec le chat, t'es moins concentré, t'es moins dedans. Et c'est vrai qu'il y a des jeux comme Cyberpunk, par exemple, que je fais en off et c'est une autre manière de faire. Mais effectivement, c'est vrai que si tu peux allier d'une pierre deux coups et pouvoir découvrir des jeux comme Kakarot, vu qu'on connaît le scénar quand même sur le bout des doigts, je pense.
Ouais.
Bon, voilà. C'est aussi peut-être ce qui manque un peu à ce Kakarot d'après ce qu'on m'a dit, parce que moi encore une fois je l'ai commencé mais je me suis arrêté très vite. On m'a dit que ça manquait un petit peu de folie au niveau de ce qui se passe. Alors après je sais pas, je sais plus s'il y a eu des DLC ou des trucs comme ça, mais j'avoue, je me suis pas renseigné plus que ça derrière. Voilà.
Non, mais puis même pour les plus jeunes, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils l'ont aussi sorti pour ça. Et au final, mon fils, il est pas hyper friand du jeu non plus, quoi. Je pense que vraiment, ça manque d'action.
Il
n'y
a pas de mauvaises critiques chez les gens.
Non, mais bien sûr.
Il est plutôt très apprécié. J'ai un pote à moi, Lilian31, qui est un peu un spécialiste des mangas et tout. Il m'a dit, moi, Kakarot, j'ai adoré. Je me suis mis dedans, c'était incroyable. C'est pour moi le dernier grand jeu Dragon Ball et tout. Bon, écoute.
Il y en a plusieurs qui sont de cet avis-là.
C'est vrai.
Mais c'est assez paradoxal ce qu'on dit, parce qu'on s'attend d'un jeu Dragon Ball que ce soit dynamique, que ça aille vite dans l'action. Quand on regarde l'animé, qu'il faut 5 épisodes pour un combat,
c'est pas très
dynamique en fait. Les combats sont sur des courtes durées très épiques, mais finalement, l'animé il avance assez lentement.
Ah, il se regarde pendant 3 épisodes.
C'est clair. Et nous, qu'est-ce qu'on veut en tant que joueur? Tout l'inverse. On veut que c'est du peps, que ce soit immédiat, que le fun disponible instantanément. Et Kakarot, je pense qu'il faut malheureusement un peu se forcer au début pour rentrer dans l'aventure. Et effectivement, avec une vie de famille, un boulot à temps plein à côté, je sais pas, cet investissement en temps.
On nous a un peu habitués à ça aussi, hein, faut être honnête, parce que c'est vrai que tous les jeux Dragon Ball qui sont, enfin, les plus impactants quand tu regardes Fighters, tout de suite, tu rentres dans le vif du sujet, tu te fracasses avec ton adversaire, ça va à une vitesse. Mais stratosphérique, c'est bien beau d'aller voir chercher des boules à droite, à gauche, mais le cœur du gameplay finalement reste aujourd'hui le combat.
Man,
et,
c'est sûr.
Et même pour Kakarot, le cœur du gameplay reste le combat aussi entre tout ça. Et c'est vrai que des jeux comme Fighters ou Budokai 3, Budokai Tenkaichi 3, tout de suite, tu prends, tu choisis ton personnage, on t'a habitué à ça et tout de suite, bam, tu vas tabasser l'autre. Et puis, quand tu regardes l'animé, ce que tu attends le plus, c'est les fights.
Ouais.
Bah, oui. C'est vrai qu'on adore l'histoire qui rentre et tout, c'est génial, mais les fights, ça reste le... Voilà, le gros du gros, tu vois.
Bah,
en animé, oui. Autant dans le manga papier, tu peux avoir tout ce côté histoire qui prend son temps. Mais dans un animé, il faut que ça peps un peu.
Voilà, c'est ça. Surtout pour Dragon Ball et dans un jeu vidéo, encore plus, j'ai presque envie de dire. Donc,
Surtout Dragon Ball Z. Par rapport à Dragon Ball, Dragon Ball, je trouve que tu prenais un peu plus le temps de trouver l'histoire et tout. Dragon Ball Z, les combats sont tellement épiques que c'est ce qui a marqué le plus les gens, quoi, vraiment.
C'est quand même un enchaînement de fights. Parce que les petits fights, entre-temps, même l'entraînement dans la salle
l'entraînement,
de l'esprit du temps
avancé,
même, tu vois, tout est jonché de fights, en fait, dès le début.
Trunks, quand il va sur les planètes pour s'entraîner,
voilà,
etc. Bien sûr.
C'est toujours ça, quoi.
Je trouve qu'on est, en fait, sur trois œuvres différentes. Dragon Ball, Dragon Ball Z, je ne parlerai pas du GT, et Dragon Ball Super.
Je ne parlerai pas du GT. Il y en a qui vont dire, mais GT, c'est mieux que Super. Attention, moi, je ne suis pas d'accord.
Mais... Ouais, mais GT, ce n'est pas canon. Donc, voilà, je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas canon. Mais Dragon Ball, c'était l'histoire d'une aventure, d'un personnage qui était Goku. Le Dragon Ball Z, c'est du combat. Mais je trouve, à l'époque, c'était savamment dosé. Et Dragon Ball Super, à mon sens, hein, là j'engage que mon avis, c'est la surenchère. On est dans du fight. Une transfo, puis une autre, puis encore une autre, et rose, et bleu, et vert, et...
Oui,
c'est bon.
Non, mais
moi, c'est bizarre parce que je suis vraiment... C'est peut-être moi, mais j'adore tellement Dragon Ball, peut-être, je sais pas, mais hormis les deux premiers arcs qui sont catastrophiques, franchement, parce que c'est tiré des films qui sont sortis, Battle of Gods et... Mais finalement, c'était les films en moins bien faits, en moins bien dessinés, entre guillemets, une moins bonne animation. Donc, autant aller voir les films et pas perdre son temps. J'ai trouvé que l'arc Black Goku était super intéressant. Il me semble que Toriyama s'est réimpliqué un petit peu plus dans cette écriture-là de ce que j'avais entendu. Et c'est vrai que c'était assez noir, assez dark. C'est ce qu'on voulait peu quand on voit... alors, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais quand on voit Shishi et Goten se faire tuer devant les yeux de Goku, putain, c'est un truc... Ça m'a...
C'est poignant.
Non, mais c'est un truc qu'on aurait aimé avoir, limite dans Dragon Ball Z, et se dire, ça va si loin, quoi. Et ça, c'était vraiment bien, tu vois, cet arc-là, c'est un des meilleurs arcs, je trouve. Et puis, effectivement, le combat des univers, on est dans cette surenchère qui est permanente, mais je trouve quand même qu'il y a eu quelques instants de grâce. Voilà. Vraiment, le combat Piccolo, Gohan, le Tortue Génial, l'épisode où Tortue Génial utilise le Mafuba. Il y a quand même quelques épisodes, et notamment la fin aussi, et bon, Jiren et tout ça, ça a été... tellement bien animé, tellement bien dessiné, c'était assez extraordinaire.
Alors c'est vrai que le début de Super a été rushé. Ils ont rushé, c'est sorti trop vite en fait, ils n'ont pas pris leur temps et ça a été une catastrophe.
C'est pourri, moi j'ai dégoûté.
L'arc, effectivement, Black Goku, je le trouve très sympa.
Ouais.
À la nuance que l'arc en fait se finit par une action de Trunks, c'est presque trop facile alors que ça fait 10 épisodes qu'ils en chient avec des power-up de fou et Trunks il arrive, deux coups d'épée et c'est fini.
Ouais.
Et je trouve que il y a un manque de dosage au niveau des puissances des personnages. Et
Après, Trunks, même dans Dragon Ball Z, il a toujours été, quoi, tu vois, quand le Trunks du futur vient et tu sens qu'il est un peu supérieur à ce qui se passe sur le moment T, tu vois, de l'aventure. Moi, je trouve qu'il a toujours été, et il a une épée alors que les autres n'en ont jamais eu. Quoi,
c'est
tu
un
vois,
a... alors, c'est
oui,
un
c'est
peu
ça,
un symbole. C'est... Moi, je le vois comme ça. Il arrive, il revient dans son époque, il doit terminer le travail. Et en fait, je pense que c'est un petit peu le même symbole qu'a voulu faire peut-être soit Toriyama qui a supervisé ou tous ceux qui étaient là.
Peut-être
c'est terminer le travail. Voilà.
Avec toi sur le fait où il vient et c'est lui qui fait le finish après dans son époque. Mais la différence, c'est que la première fois où il vient du futur, il vient pour aider Goku. Alors que dans Dragon Ball Super, il vient demander de l'aide à Goku.
Oui. Totalement.
Et donc, c'est qu'il s'en sort pas.
Oui, bien sûr.
Moi, je trouve, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'il s'en sort trop facilement alors qu'il est venu demander de l'aide, qu'ils en bavent comme c'est pas permis. Et puis finalement, en fait, il n'avait pas besoin d'eux puisqu'il y arrive tout seul. Et je trouve que ça fait perdre toute sa constance, toute sa substance, pardon, à ce qui s'est passé, en fait, dans tout l'arc, en fait.
Après, de toute façon, chacun se fera des avis et c'est comme les jeux vidéo, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, mais c'est vrai que Budokai 3, par exemple, c'est un jeu que tu peux jouer. Moi, j'y joue encore avec mon fils. Ça le choque pas, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que les jeux en cel shading ont cet avantage-là, hein, comme Wind Waker, comme Jet Set Radio ou autres. C'est des jeux qui vieillissent ultra bien, quoi. Et vu qu'il retrouve les personnages qu'il connaît, ça choque pas plus que ça d'y rejouer maintenant, quoi.
Bah d'ailleurs, moi, je conseillerais à toute personne qui veut jouer à un jeu Dragon Ball aujourd'hui de s'acheter une PS2. C'est pas encore trop cher, on va dire.
Ouais, t'en trouves
et deux. Et si vraiment tu veux l'avoir en physique et tu t'achètes un Budokai, franchement, ça vaut 10€ dans ton cash, Budokai 2 ou 3, et encore aujourd'hui, tu te régales.
Non, mais c'est clair.
Tu parlais d'un truc tout à l'heure, Conker. Tu disais dans les épisodes PS1 que t'aurais voulu et qui t'a manqué, c'est les transformations in-game. Ouais. Et justement, c'est peut-être ce qui fait que t'aimes tant les Budokai, c'est qu'il y avait la possibilité de se transformer dans le combat. C'était pas un personnage en plus que t'avais, c'était le même personnage qui se transformait. Et ça, même si j'aime beaucoup FighterZ, je trouve que c'est un truc qui manque.
Je suis d'accord avec toi, c'était vraiment un truc, je sentais qu'on avait plus de puissance, qu'on avait plus et ça c'était génial, moi c'était vraiment, ça m'a marqué.
Par contre ça te fatiguait de quoi
mais
ça...
l'énergie se perdait plus.
Ouais. Oui, c'était trop bien.
Non mais c'était bien fait. Ah, clairement.
C'était hyper cool.
C'était fidèle le manga.
Ouais, grave. Moi j'avais
c'était
adoré.
C'était très fidèle.
La concentration, c'était mine de rien très stratégique parce que à l'attente que ton pote il soit dans un délire, hop là, vite appuyer sur les deux boutons.
Après, je sais pas si vous avez deux trois anecdotes, que ça soit perso ou sur le jeu.
J'en ai une sur Budokai 3, notamment. Il y a un petit easter egg qui est super sympa que j'ai évoqué il y a quelques temps et que les gens ont découvert des années après. C'est fou et totalement par hasard. C'est que quand tu laisses, tu es en plein combat, quand tu poses ta manette, les deux personnes posent leur manette pendant 13 minutes, très exactement, d'accord ? En fait, tu sais, ils sont comme ça, les personnages, tu vois, ils attendent. Et en fait, je ne sais pas qui a posé sa manette comme ça pendant 13 minutes. Ils se sont aperçus que Goku, en fait, tournait sa tête vers la caméra et il te faisait un espèce de signe en disant « Mais bouge ton cul, qu'est-ce que tu... Enfin, bouge-toi, quoi, joue !» Alors, il faut attendre 13 minutes, on ne sait pas pourquoi. Habituellement, ce genre d'animation arrive au bout de 10 secondes, 20 secondes. Tu sais, et là, hop, il se tourne, il y a un petit côté flippant où il te regarde comme ça et tout. Et je trouvais ça assez marrant, quoi.
Ouais, je me souviens que toi, t'avais pas, je sais plus dans quoi t'en as parlé, mais c'est une vidéo que j'ai remontée pour toi il y a pas longtemps sur Facebook. et je me rappelais plus, je me rappelais pas de ça. Bah, je pense que personne en fait s'en est. Quoi, tu vois, tu laisses rarement la console tourner comme ça, quoi.
Et surtout sur un jeu comme ça, on parlait tout à l'heure de dynamisme. Tu faisais un combat avec ton pote, tu t'attendais pas 13 minutes, je sais pas ce que le mec il est allé foutre, il allait se prendre un café ou même pas, c'est là carrément il a ramené le café de l'extérieur, il est revenu, tu vois,
c'est clair.
C'est fou de découvrir ça des années après, quoi.
C'est clair.
Et moi, toujours dans Budokai, je sais pas si vous vous rappelez des temps de chargement.
Ah oui.
Les temps de chargement, on avait des actions à faire avec les joysticks. Et en fait, avec mes potes, presque on s'affrontait plus à qui tournait les joysticks le plus vite pour faire pousser les Saibaimen ou monter à la tour Karin.
Qui devait monter à un moment donné, je sais plus. Non, je sais pas.
Bah, il y avait je crois que c'était Goku qui montait à la tour Karin.
Goku, ouais, peut-être, je sais plus.
Il y a eu les Saibaimen qui montaient qui poussait dans le sol.
Ça c'était énorme.
C'est parfait. En tout cas, merci à vous deux. On va refaire un petit tour de l'actu. Je sais pas qui veut commencer, savoir où. Alors Conker, on te retrouve essentiellement sur YouTube avec un rythme de vidéo toujours impressionnant, mais
on baisse un petit peu, on reste dans les dossiers comme tu le sais maintenant, mais on est beaucoup dans l'histoire du jeu vidéo, enfin de licence, etc. Donc c'est des vidéos dossiers qui demandent du temps, forcément avant je faisais plus de vidéos qui faisaient 10-15 minutes, donc c'était assez facile d'en produire. Maintenant aujourd'hui ça demande beaucoup plus de travail et de temps, et donc on réduit la voilure, on passe de 8 à 6 voire 5 pour les prochains mois par mois, et ça laissera le temps aussi aux personnes de pouvoir regarder tranquillement les vidéos sans se presser. Ça fera pas de mal et sinon toujours cette actu très youtubesque, finalement. Je sais pas si on peut dire ça comme
t'es un peu plus régulier sur Twitch quand même en ce moment.
Un petit retour sur Twitch,
petit retour sur Twitch, on essaie, c'est pas facile de tout concilier, franchement bravo à vous qui arrivez à concilier ces choses là moi j'ai toujours un peu de mal, et comme je vous dis, moi c'est vrai que je joue beaucoup en off pour justement le bien des vidéos, et malheureusement ou heureusement, parce que c'est génial de jouer, j'ai moins de temps du coup pour le faire en live, mais voilà. Ça, c'est une autre manière de savourer mes jeux et d'en parler derrière, c'est plus simple, quoi.
Et du coup pour toi, MightyAnat TV, on te retrouve sur Twitch essentiellement?
Sur Twitch essentiellement, un petit peu sur YouTube, mais c'est y a pas de montage, c'est vraiment des replays de mes plus grosses et de mes plus, comment dire, importantes réparations ou modding que je peux faire sur les consoles. Donc moi, le planning, c'est lundi soir jeu rétro, et le jeudi soir c'est réparation modding de consoles rétro, voilà.
Mon actu à moi, c'est les lundis, mercredis, dimanche, à 20h sur Twitch et YouTube maintenant en direct. C'est vrai qu'en vidéo pure YouTube, en ce moment, il n'y en a quasiment plus parce que bah, voilà, je suis occupé avec, avec d'autres choses. Par contre, j'en profite, c'est vrai, pendant le podcast, si jamais il y a deux gros projets à venir, il y a la réédition d'un jeu qui va s'inspirer du jeu Carmen Sandiego qu'on est en train de préparer avec Kazer le Lutin. Cool. Donc voilà, qui devrait sortir en 2024, hein, qui est un jeu un petit peu éducatif et sur la géographie. Donc voilà, on va le remettre au goût du jour, on va le mettre en multi online. Donc vous pourrez faire des compétitions aussi dessus. Voilà, pas mal de petites choses. Et un deuxième gros projet qui est en cours, qui est une course de karting d'endurance en relais avec des créateurs et créatrices de contenu qui devraient voilà, là je pense avoir eu la confirmation du circuit Paul Ricard. Donc
Ah, tu connais très bien.
Ouais, voilà. Donc c'est vers chez toi, donc
ouais,
bah, vers chez toi, vers ton ex chez toi, mettons, de là où tu es originaire. Donc voilà, ouais, on va essayer de mettre ça en place. Donc en tout cas, merci à vous deux. Et puis bah, de toute façon, je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous vois régulièrement, que ce soit l'un ou l'autre. Donc voilà.
Ouais. Et cœur sur vous, les gars. Et puis bonne année aussi au passage, hein, la santé.
Et ouais, bonne année à tous. Ouais
bonne année. Plein de belles choses.
Beaucoup de vidéos, beaucoup de réussite dans vos projets, beaucoup de bonnes choses. Et puis le chat aussi également, beaucoup de bonnes choses et la santé. Voilà, c'est le principal. On a ça, on a tout, les gars.
Exactement, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
C'est ça.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur GTA Vice City avec l'ami Chris Klipple, entre autres, créateur et fondateur donc de Rockstar Mag. Allez, au mois prochain. Au revoir.